m'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Amélioration du système éducatif congolais. Monsieur Vital Banuissizé Moïni, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, propose de privilégier l'enseignement technique et professionnel en lieu et place de l'enseignement général traditionnel. Il estime pour sa part que l'enseignement technique et professionnel offre plusieurs opportunités de développement. Que pensez-vous de cette proposition? C'est la question au centre de nos échanges dans ce magazine mis en onde par Mimi Kindou. Et quant à moi, Piero et la Menji, c'est un réel plaisir de vous le présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à toutes et à tous.
L'actualité en profondeur sur Radio Capi, c'est dans Grande Interview. Des questions politiques, économiques, sécuritaires et tout ce qui touche au vécu des Congolais sont abordées avec les acteurs qui font l'actualité et les spécialistes. L'actualité évolue et nous aussi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous tous les samedis à 10h05, dimanche à 11h05 et mardi 14h15.
Parole aux auditeurs, Piero et la Mégie.
Et nous recevons dans ce studio, comme je le disais tout à l'heure, l'auteur de la démarche de la modification ou de la réforme, M. Vital Banuissizé Mukuza Moïni. Honorable, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes, aussi mes salutations à tous les auditeurs.
Deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Mais il y a une grande casquette, c'est la casquette enseignement professionnel technique où vous avez beaucoup œuvré et vous continuez à œuvrer.
Exactement, chaque député a son background. Mon expérience est articulée sur mon secteur de prédilection, c'est la formation professionnelle où j'ai passé 25 ans. J'en ai fait des publications, il y en a qui sont en ligne, et je suis auteur, je suis promoteur de plusieurs centres de formation professionnelle.
Et là d'ailleurs, sur cette table du studio, sur le plateau, j'ai le guide du praticien de la formation professionnelle, comment réformer la formation professionnelle et la rendre plus efficace au profit de l'économie et de la population. On va parler de ça, on va parler de la formation professionnelle, mais je voudrais d'abord qu'on puisse poser les bases. Qu'est-ce que vous reprochez à l'enseignement général et traditionnel? Quelles sont les faiblesses? Qu'est-ce que vous reprochez?
En fait, je suis député national. Je représente le peuple et j'ai parmi mes plaidoyers, il y a celui de repenser systématiquement, pour repenser le système scolaire congolais et même de beaucoup de pays africains. Je reproche à ce système la forte inadéquation entre la formation et l'emploi. Au regard du taux de chômage, monsieur le journaliste, c'est très grave. Nous avons atteint le seuil qui dépasse, nous dépassons le seuil du tolérable. Nous avons honte de dire aux gens que nous avons au-delà des 70% comme taux de chômage dans les pays. Et moi, personnellement, je qualifie déjà le chômage de cancer, un cancer social. Parce que dans chaque ménage congolais, il y a des chômeurs. Deuxièmement, l'école est déconnectée des réels besoins de la population en biens et services. Par exemple, monsieur le journaliste, tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui nous entoure, dans nos ménages, dans nos salons, ici au studio. Je peux citer par exemple les vêtements, voitures, motos, tout ce dont on a besoin. Quelle est l'école qui apprend à nos enfants de les fabriquer? Nous importons tout ce qui n'est pas, ce qui n'est pas correct. Aussi, notre école, notre système scolaire confère des... On va à l'école pour avoir des compétences. Mais il y a trois grandes compétences. Mm-hmm. Compétences cognitives, compétences techniques et puis compétences relationnelles. En tout cas, en termes de compétences cognitives correctes, au niveau compétences relationnelles, ça marche. Mm-hmm. Mais les compétences techniques, il faut avouer qu'il n'en avons pas du tout. Et la pyramide scolaire congolaise prend tout le monde depuis l'école maternelle jusqu'à devenir licencié, gradué, licencié, docteur avec le CMLMD. Donc, il faut que tout le monde soit docteur, que tout le monde soit licencié. Mais le pays est plein de licenciés, plein de docteurs, plein de gradués. Et les autres tâches, les autres métiers, qui va s'en occuper?
Alors, voilà. Honorable. Oui. Alors, si on voit la base de notre système scolaire, le programme établi depuis la période coloniale, vous l'avez dit, c'est une adéquation. Mais pourquoi nous, on ne parvient pas à se ressaisir pour dire il y a un problème, nous devons repasser le système malgré toutes les tentatives des réformes du système. Pourquoi on n'arrive pas à décerner ce problème pour pouvoir apporter des solutions? Qu'est-ce qui se passe exactement?
Bon, de toutes les façons, je crois que nous sommes distraits. On est distraits par rapport à l'école. Et pendant que d'autres pays marchent, je n'ai pas fini, monsieur le journaliste. Mm-hmm. Je vous cite d'autres problèmes avant d'en arriver là-bas.
Okay.
Nous avons un problème de balance de paiement qui est déficitaire. Mais nous sommes un pays qui importe tout ce dont on a besoin. Je suis enseignant en même temps à l'université. J'ai envoyé des étudiants dans autant de boutiques, même ici à Kinshasa. Dans chaque boutique, en moyenne, je cite une boutique où on trouve 483 produits. Mais vous n'y trouvez que seulement 11 produits fabriqués en RDC. Mm-hmm. Au-delà des 460 sont des produits importés. Est-ce que nous sommes incapables de faire ça? Est-ce que le pays n'a pas de matières premières? Un problème d'orientation, d'orientation et de prolifération des institutions d'enseignement supérieur. Désormais, on formait des universitaires dans chaque ville à l'époque. Aujourd'hui, on les forme dans chaque village. Mais pour faire quoi? Et les institutions pareilles, j'ai les nombres des machines de fabrication des chômeurs. Alors, tout le monde est au chômage. Le chef de l'État a un problème. Mais moi, député, dans ma circonscription, les gens ne me réclament que l'emploi. Est-ce qu'un député distribue l'emploi? À quel niveau? Il va faire le plaidoyer où? Le chef de l'État débordé, tous les ministres débordés. Parce que les gens ne cherchent que d'emploi. Nous avons formé plus de commandeurs d'emploi au lieu de créateurs d'emploi, moins d'entrepreneuriat. Voilà donc la problématique en quelques mots.
Voilà. Ouais. Alors maintenant, vous privilégiez, vous insistez beaucoup sur la question de l'enseignement technique et professionnel.
Ouais.
Mais il faudra quand même qu'on sache, vous avez parlé de la distraction. Nous sommes distraits tout simplement.
Oui, je vais le dire. Je vais le dire parce qu'il y en a qui portent des bonnes idées. Je cite le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Il a mis de la priorité sur la formation professionnelle. Mais dans les actes, on ne le voit pas. Parce que les budgets ne suivent pas. Je dois le féliciter sur ce plateau ici pour avoir maintenu rien que le ministère de la formation professionnelle. Mais il y a des guerres entre l'enseignement général. Ils se combattent. Donc l'enseignement général veut avaler l'enseignement professionnel. Ce qui n'est pas correct, mais je vous dis, l'avenir de ce pays tiendra, l'avenir de ce pays dépend de la façon dont on va valoriser la formation professionnelle. Parce que nous avons une culture diplômante. Donc, une culture des diplômes, une culture où on ne valorise pas les métiers, les gens négligent le travail manuel, et chacun voudrait être en cravate, nous voulons seulement le paraître. Qui dit aux Congolais que les gens qui sont propres sont ceux qui ont l'argent. Ce sont ceux qui vivent bien. Non! J'ai fait 25 ans d'information professionnelle. Vous êtes journaliste. Avez-vous l'argent de mes soudeurs à Bukavu? À Goma? Même ici à Kinshasa? Un soudeur au quotidien, il paraît sale, mais il a l'argent. Mm-hmm. des constructeurs, n'est-ce pas? Tous ceux dont on a besoin comme métier. Maintenant, s'il faut commencer à importer, nous avons un problème des routes. Il faut importer la main-d'œuvre dans tout ça. Donc, parce que tout simplement, on ne valorise pas les métiers.
Voilà.
Pour que nous ayons des hommes et femmes de qualité.
Voilà. Alors, avant d'écouter les auditeurs qui participent à ces débats, je voudrais poser cette question sur de savoir quel est le premier pas à faire. Vous avez parlé, nous sommes distraits, on ne valorise pas. Mais il faudra quand même qu'il y ait un pas qui doit être fait. Et moi, je suis très content de ce que vous faites parce que je l'ai lu sur Internet avant qu'on prépare cette émission. Je vois les publications que vous avez mises à notre disposition ici, les plaidoyers que vous faites.
Ouais.
Alors, on doit commencer par quoi exactement?
On doit d'abord s'arrêter. Arrêtons tout ce que nous faisons. Déjà, organise des états généraux, comme on dit, mais il faut vraiment où les gens doivent s'arrêter, avoir un atelier de réflexion pour repenser le système, évaluer d'abord le système. Le système qui a montré ses limites au regard du chômage criant que nous connaissons. Et là, nous avons quand même des constats. L'UNESCO, il y a d'autres pays qui ont évolué. Il y a d'autres pays qui ont évolué. Comment ils ont fait? Les Chinois ont fait quoi? Le Thaïlande a fait quoi? D'autres pays ont fait quoi pour évoluer? Ils se sont arrêtés pour dire non. Tant mieux, ce système ne nous permet pas. Deuxièmement, ce qu'il faut faire, il faut, après s'être arrêté, nous devons procéder à l'étude du marché. Écouter la population. La population a besoin de quels services? A besoin de quels biens? Il faut former les gens en fonction des besoins du marché. Les marchés locaux, les marchés internationaux. Nous avons besoin de quoi dans nos ménages? Pour apprendre nos enfants de le fabriquer, au lieu de tout importer, jusqu'à importer Kirda, Savo, quel pays qui peut produire de l'huile comme jour? Nous sommes un scandale en termes de matières premières.
La première chose, nous devons nous arrêter, nous devons évaluer, et après maintenant, nous allons passer à la prochaine étape, après avoir écouté à quelques auditeurs qui sont avec nous dans cette émission,
d'accord,
comme Gilbert qui nous appelle d'Mbujimaï. Bonjour.
Bonjour à Dokapi, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kapi. Mon point de vue concernant la proposition de l'Honora s'avère impérative, car dans notre pays, nous décrions le nombre ou l'effectif minime des techniciens ou des chercheurs dans les domaines techniques. Cette proposition pourra favoriser plus la montée des chercheurs ou la montée de l'effectif des chercheurs dans les domaines techniques dans notre pays. C'est ça mon point de vue. Merci.
Merci beaucoup. Gilbert Guy, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Quant à la réforme de l'enseignement technique doit être privilégié. Privilégié dans la mesure où aujourd'hui, dans notre pays, la RDC, nous avons un problème sérieux de l'entrepreneuriat parce que l'enseignement technique est trop négligé. Il faut doter des institutions d'enseignement, des cadres, de formation des jeunes pour que ce pays puisse connaître un réel développement. Dans la mesure où notre système traditionnel, notre système de l'enseignement traditionnel a rendu le pays pauvre et a rendu le pays dans beaucoup de conflits. Aujourd'hui, vous voyez dans les établissements des enseignements primaires, secondaires et universitaires, les gens se disputent autour des postes dans nos administrations. Alors que dans les secteurs techniques de construction, de menuiserie, de levage et beaucoup d'autres choses que je m'épargne de citer ici, d'électricité qu'on sort, nous n'avons pas de cadres. Nous importons les cadres. Donc, vous voyez nos routes, nos bâtiments. Ce sont des expatriés qui viennent construire pour nous. À notre État, moi je soutiens ce que le vice-premier président de l'Assemblée nationale a proposé. C'est une bonne idée et c'est notre État doit conduire l'enseignement dans cette optique. Merci, c'est Guy Kambouyi à Kananga, au Kasaï Central.
Merci beaucoup, Guy. On va écouter François qui est à Tshikapa et on revient dans ce studio pour que notre invité puisse réagir et nous continuer l'échange. François, bonjour.
J'encourage aussi la proposition de privilégier l'enseignement technique. Vous savez, dans l'enseignement technique, il y a la spécificité. il y a la spécificité et surtout il y a surtout les métiers, hein, il y a surtout les métiers. Or les métiers produisent le litre. J'encourage ça au détriment de l'enseignement général. Mais je ne dis pas qu'il faut exclure l'enseignement général. Mais si le gouvernement peut privilégier l'enseignement technique, c'est bien. Voilà ma position.
Merci beaucoup François. Alors honorable Vital Banuessis, et nous revenons vers vous. Alors, les auditeurs, ils sont unanimes, ils soutiennent votre démarche. Mais dans leur point de vue, je vais tirer deux choses. Ouais. On a d'abord parlé du premier pas, vous avez dit qu'il faut évaluer, ouais, et vous allez donner la deuxième démarche. Mais je vais aussi insérer ces deux préoccupations. La question d'abord de la pauvreté, parce qu'un auditeur a parlé de l'enseignement général a apporté la pauvreté. Ouais. Mais je voudrais que vous puissiez nous montrer les liens entre l'enseignement technique professionnel et la création des richesses. Ouais. Mais aussi il y a la question de la psychologie au niveau des familles. Aujourd'hui, d'accord, comment les parents aident-ils les enfants à choisir? Parce qu'on sait que quand quelqu'un, un enfant dit veut faire la mécanique auto, tout de suite on trouve comme un vaurien dans la société. Ouais. On voudrait que l'enfant aille dans la faculté de droit. On vous écoute.
Voilà. Merci beaucoup pour cette mini-enquête. Si vous interrogez des Congolais à ce sujet, tout le monde vous dira, nous devons repenser le système scolaire congolais. Parce qu'il y a une adéquation, encore un paradoxe. Un pays, le nôtre, doté de beaucoup de matières premières. Nous sommes un scandale en matière première. Lesquelles matières premières sont traduisibles, donc on peut les convertir en biens et services. Nous sommes aussi un scandale, nous avons des hommes et des femmes extraordinaires. Nous avons des talents dans le pays. Lesquels talents sont mal orientés à cause de la culture, des diplômes. Les enfants ne sont pas orientés au regard de leurs talents, ils sont orientés par leurs parents. Les gens choisissent des facultés où c'est propre dans des bureaux climatisés. Et des économistes, moi aussi je fais l'économie, je fais aussi le développement agricole. C'est ça l'orientation que je devais avoir. C'est pour dire, mais ces économistes, là, parlons seulement de ça. Vous allez à la faculté à l'université de Kinshasa. Autant d'économistes. Mais nous avons quelle banque qui appartient aux Congolais?
Aucune.
Toutes les banques ici, Rawbank, BCDC et autres, mais ce sont des banques d'autrui. Est-ce que nous n'avons pas de capacités? Je veux dire, nous avons la matière première et nous avons aussi la matière grise. Nous ne manquons que ce qu'on appelle technicité. Et nous devons dire aux parents, nous devons inverser certaines valeurs. Ou nous privilégions seulement l'enseignement général, comme les Congolais, selon nos colonialistes français et belges, nous voulons paraître. Paraître, tout simplement. On est content et puis beaucoup de belles paroles. Beaucoup de Français, moins de technicité. Eh bien, nous devons inverser parce que notre école a privilégié dans l'enseignement général. Trop de théories inutiles.
Alors, je vais vous donner un exemple. Hein. Moi, ouais, j'ai fait l'Institut technique agricole.
Très bien.
Voilà. Et puis après, on avait une grande concession où on pouvait pratiquer, planter. Mais un jour, on se réveille le matin, les autorités provinciales lotissent. Et l'école, aujourd'hui, elle n'a même pas où les enfants peuvent pratiquer. Mais ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'au niveau du pouvoir public, on commence d'abord par déposséder les écoles techniques des ateliers qui étaient là. On vend les terrains qui appartenaient ici. Itigombe, il y a des conflits tous les jours ici sur le lotissement du terrain tout autour de l'institut. Ouais. Des machines vendues, des terrains où les écoles de techniques agricoles pouvaient faire des pratiques ont été vendues en concession. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les Congolais, il est l'ennemi de son propre développement?
Bon, c'est faute de connaissances. Ces Congolais qui gèrent et qui exproprient, ils ont évolué dans ce système à changer. Ils ont cette culture. Pour eux, l'école, c'est la médecine, l'école, c'est les droits. Aller à la faculté. Tout le monde est juriste dans le pays, si on se demande finalement. Et puis, est-ce que le droit, il est vraiment droit ou oblique? Je ne sais pas, dans certaines conditions. Je me dis finalement, je ne m'attaque pas à l'enseignement général sur toute la ligne. J'accepte qu'il y en a qui peuvent aller dans l'enseignement général, mais nous, on aurait dit avoir 40% seulement dans l'enseignement général.
Et 60%
dans l'enseignement technique. Mais nous avons l'inverse. Nous avons 95% dans l'enseignement général, peut-être 5% dans l'enseignement technique.
Alors,
et dans l'enseignement technique, n'est pas aussi valorisé. Faute de cette culture. Il faut s'attaquer à cette culture. Il y a des pays qui ont pu évoluer. L'Allemagne. Un pays que j'ai longtemps fréquenté. Ce sont des gens qui m'ont formé. C'est la Suisse.
Comment tous ces pays ont été, même aux États-Unis, ils ont évolué comment? C'est avec l'enseignement technique. Mais aujourd'hui, ce que nous valorisons, cet enseignement. Je vais vous donner un cas. Nous avons l'enseignement supérieur, nous l'enseignement professionnel aujourd'hui. Mais nous n'avons même pas un seul centre de formation qui est payé par l'État. Il n'y en a pas. Si vous créez une école secondaire, école primaire, demain, on va le mécaniser et ça va payer. Mm-hmm. Mais moi, je suis prometteur d'autour de 13, 10, je suis déjà à 17 centres. Aucun centre n'a un sou. Ça signifie que c'est ça l'accessoire. Mais pourtant, faut voir les gens qui sont là. Nous y rééquiperons, n'est-ce pas? Au tas des jeunes. Je suis content, si vous permettez, oui. Monsieur le journaliste. Un des auditeurs parlait aussi de la question sécuritaire. À moins que vous posiez vous-même cette question-là. Tout ce que nous avons comme groupe armé, moi je viens de l'Est. Je suis de l'Est, j'ai vécu dans ce pays, mais à l'Est. Mais, prolifération des groupes armés. C'est parce que nos jeunes ont manqué des occupations lucratives. Vous savez, quand le chef de l'État décrète, il dit il y a un programme de démobilisation, réinsertion, tout ça, ouais. N'est-ce pas là? Mm-hmm. Mais des jeunes sont nombreux qui s'auto-démobilisent pour suivre la formation. Parce que l'intérêt, c'est la survie. Mm-hmm. Donc c'est une guerre économique. C'est lié au chômage. Et je vous dis, franchement, si nous ne pouvons pas régler le problème du chômage, personne ne gouvernera en paix ce pays. Nous ne finirons pas avec des groupes armés, nous ne finirons jamais avec les guerres et même le banditisme urbain. Ici, ces gens-là. Vous pensez que ces gens, ils sont si mauvais? Non. Tout homme est né naturellement bon. Quand ils se trouvent dans les conditions, ne savent pas assurer leur survie, c'est alors qu'ils
s'en sécurisent pour la survie. Honorable, oui. Vous avez dit, on commence par arrêter tout.
Oui, on s'arrête. En question, on évalue.
Et la prochaine étape?
La prochaine étape, c'est l'étude du marché.
Ok.
Et l'étude du marché, écouter la population. Savoir, on a besoin de quel service? On a besoin de quel bien? Informons les gens dans ce sens-là. Et je vais donner une piste. La piste, c'est quoi? Voyons d'abord, qu'est-ce que nous importons? Et que l'on peut fabriquer localement? Avons-nous la matière première? Je vous dis, la plupart des biens importés dans nos boutiques, allez seulement dans les boutiques. Allez seulement dans votre maison, monsieur le journaliste, même les autres qui me suivent. Dans leur maison, regardez dans votre maison, autour de vous, ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce qui est fabriqué au Congo? Quelle école apprend à votre fils, à votre fille à les fabriquer? C'est un défi que nous avons. Donc, on s'arrête, on évalue, n'est-ce pas? On voit le besoin du marché. Donc, les entreprises ont besoin de quelle main-d'œuvre? Les ménages ont besoin de quels biens et services? Qu'est-ce que nous importons, que nous pouvons remplacer par une fabrication locale. Dans un premier temps, je peux donner ça comme piste. Voilà. Aussi l'orientation. Parce que moi, j'ai fait ma deuxième année secondaire en 83-84. On nous appelait cycle d'orientation. CO. Est-ce que ça existe encore?
Non, ça n'existe pas.
Chacun s'oriente comme il veut, des pédagogues qui vont en médecine, chacun fait ce qu'il fait. Vous avez parlé d'agronome, agronome, vous êtes devenu journaliste aussi, je sais pas. Ah, peut-être que vous avez une reconversion.
J'ai fait une reconversion.
C'est comme ça qu'on a une reconversion.
Voilà.
Parce qu'il y a, ça aussi c'est autorisé, même pour les métiers, c'est autorisé. Mais combien d'agronomes? D'agronomes qui roulent carrosse, ils sont seulement dans des villes, ils ne peuvent pas regagner les champs, ils ne peuvent pas être là. Parce que tout simplement, ils ont manqué peut-être de financement ici et là, ou seulement on a la culture et aussi et d'autres qui deviennent des politiciens.
Alors,
et tout ça.
Maintenant, il y a l'aspect politique.
D'accord.
Vous avez parlé des écoles, des universités qui pullulent, mais il y a la responsabilité des leaders politiques dans leur milieu. Chacun voudra avoir un ISP dans son village, un ISTA, même les sites techniques à appliquer dans des villages où il n'y a même pas de moteur.
Ouais.
Alors que dans la province de l'Équateur, on n'a pas la section menuiserie où on produit tous les bois que nous avons.
Ouais.
Alors, faudrait-il faire un travail au niveau de la conscience des politiques, de ceux qui tous les jours ne font que créer les écoles et de ceux qui les agréent, uniquement parce que c'est créé par un député, un ministre, chacun veut avoir une école ou une université dans son village, comme vous l'avez dit.
Oui, parmi les erreurs que les dirigeants auront commises, figure la prolifération des universités dans tous les coins et recoins. Ça n'apporte rien à l'État, ça rapporte rien au pays. Alors, évidemment, vous avez dit quelque chose de politique, c'est pourquoi
moi je suis politicien désormais et j'ai intégré la sphère politique pour aussi influencer certaines décisions.
Exact.
Même dans ce secteur. Ceux-là qui me connaissent et qui suivent mon cursus savent que j'étais motivé aussi par cela. J'apprécie, je vous dis, le chef de l'État que nous avons aujourd'hui a pris conscience. Parce que depuis qu'il est là, on a pris proliférer des universités ici et là. Il a maintenu au moins cet enseignement, donc la ministère de la formation professionnelle, mm-hmm. qui est menacé.
Exactement.
Donc, menacé au profit de l'enseignement général. Mais de toutes les façons, nous au niveau de l'Union Sacrée, parce que j'appartiens à cette plateforme, tous ces problèmes, nous les avons. Et nous voulons influer au niveau de l'Assemblée nationale, dans notre commission sociale et culturelle, mm-hmm. pour que nous puissions induire certains changements. Repenser ce système qui va nous amener à la dérive. Parce qu'à un moment donné, ce pays ne sera pas gouvernable. Donc, nous avons été dirigés par des hommes et des femmes qui ont évolué dans cette culture, mais nous ne devons pas continuer de mm-hmm. cette manière. C'est pourquoi j'ai dit on doit s'arrêter un moment, nous regarder d'agir, évaluer, nous inspirer des modèles réussis comme des Chinois, mm-hmm. des modèles de l'Est. Je parle des modèles de l'Est. Parce que les gens de l'Est, la Chine, Thaïlande, je sais pas, Hong Kong, mais c'est eux qui étaient pauvres plus que nous. Mm-hmm. Et même ce pays a aidé, à l'époque du Mobutu, il a pillé d'autres pays. Alors, comment ils ont de manière spectaculaire avancé? C'est parce qu'ils ont changé certaines choses. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes dans un pays où les ONG, les organisations non gouvernementales de développement, pilulent, prolifèrent. Ailleurs, ça n'existait pas. Les gens créent des ateliers.
Des entreprises.
Des ateliers, des micro-ateliers qui deviennent des petites entreprises et des moyennes entreprises. C'est ce que nous faisons. Même nos commerçants. Je vous donne un cas. Je m'excuse de finir par cela.
Allez-y.
Même nos commerces, ce commerce de négoces, nous sommes spécialisés à vendre les produits des autres. Mais quels sont, où sont nos produits? Même les gens qui ont de l'argent, je vous dis, ils sont nombreux des Congolais qui investissent leur argent à Jakarta, à l'Indonésie, à l'Est là-bas, au lieu des produits chez eux. Mmh. C'est pourquoi aujourd'hui le chef de l'État met de l'importance sur le climat des affaires pour que nous puissions rapatrier nos capitaux, créer des usines. Nous devons inciter en même temps ceux-là qui utilisent nos minéraux au lieu d'exporter de manière brute nos minéraux, nos matières premières. Pourquoi ça ne peut pas se transformer au sein
alors,
du
mais
pays
le transformer au sein du pays, ça commence par créer des centres de formation. J'ai grandi au Kassai, je le disais dans une de nos activités de conférence, j'ai dit, mais bon, les enfants qui sont nés au Kassai, ils ne savent même pas quoi, on fait quoi avec les diamants. Ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les diamants? On a le cobalt, on a le cuivre, mais les enfants qui sont à Kolwezi, quelle est l'école qui peut leur dire aujourd'hui, voilà. Prenez votre cobalt ici, prenez les déchets de celui-ci, fabriquez ceci et puis faites ça. Aujourd'hui, tout le monde parle des batteries électriques qui doivent être fabriquées au Congo, mais on va les fabriquer avec qui? C'est ça le problème. C'est que l'œil du politique, c'est lui qui doit prendre la décision de valoriser l'enseignement technique professionnel. Regarde d'ailleurs, vous l'avez dit, mais pourquoi on regarde d'ailleurs? Parce que l'enseignement général a beaucoup d'argent. Ça permet aux gens de pouvoir trouver plus de moyens ou qu'est-ce qui se passe exactement?
Mon frère, est-ce qu'ils ont d'abord ces moyens-là? Vous voyez ces hommes et femmes propres dans les administrations, mais ils se disputent pour des salaires médiocres. Moi qui vous parle ici, j'ai formé autant de menuisiers, autant de maçons, autant de soudeurs, autant de plombiers. Quelqu'un qui travaille dans l'administration, il a l'argent de ces gens-là? C'est parce qu'ils ne connaissent pas. Ils veulent paraître, ils ont évolué dans une culture où le travail manuel n'est pas valorisé. Et moi, on m'a donné. Je suis au regret de vous dire qu'on m'a donné, quand vous dérangez en classe, vous avez fait du bruit en classe, on vous donne comme punition la roue. Vous allez
avec
la machette pour aller désherber.
C'est comme ça que nous
avons
étudié.
Dire que la roue, la machette, n'est-ce pas, c'est une punition. Et on a évolué avec ça. Et pourtant, la roue, c'est la vie. La machette, c'est la vie. Le travail nul, c'est la vie. Alors, pour dire, cette culture, nous devons la changer. Mm-hmm. Et les gens orientent leurs enfants. Tu vas être médecin, tu vas être ceci ou cela. Je l'ai dit tantôt. Donc, on doit aussi revoir aussi au niveau, à ce niveau là-bas. Et aussi, ce que vous disiez, effectivement, ce sont les dirigeants. Je figure désormais parmi, parce que je suis député, je dois aussi influer par rapport au plaidoyer. Nous devons amener les acheteurs, n'est-ce pas, nos acheteurs, les destinataires de nos minéraux, des produits made in Congo, n'est-ce pas, de les transformer dans le pays. Mm-hmm. Franchement, je l'ai dit de tout cœur, je dois remercier encore le chef de l'État, ce que j'ai trouvé à Bukavu. Pour la première fois, moi aussi, je voyais ces mains de l'or.
On parle lingot d'or, je n'avais jamais vu. Désormais, j'ai trouvé une usine implantée à Bukavu pour transformer de l'or en lingot. Ça, j'ai visité avec des députés. Nous sommes dit, et ça donne suffisamment d'emplois à beaucoup de gens. Je me suis dit, c'est là que j'ai vu les lingots, comment ça existe. Donc, pour dire, il y a aussi la volonté politique, je crois que nous l'avons déjà. Nous espérons qu'on va continuer aussi de la même lancée et voir ce qui peut
se faire. Alors, on va écouter Siméon qui est à Goma, Jules est à Bukavu et Marie-Paul à Kisangani. Siméon, merci d'être avec nous. Hein. On vous écoute, Siméon.
Bonjour Radio Okapi, bonjour messieurs les journalistes. Nous disons encore sincèrement merci pour le grand thème, le thème qui concerne l'éducation de nos enfants et de nous tous parce que nous sommes encore étudiants. Donc nous disons réformer le système éducatif congolais, c'est une bonne chose. Dites privilégier les enseignements techniques et professionnels. Oh, c'est une autre chose aussi. Comme ils ont voulu, ils veulent, lui et son équipe, d'améliorer et de rénover le système éducatif congolais, nous disons merci. Nous devons leur apporter nos soutiens. Ils ont nos soutiens. Nous devons les accompagner. C'est une bonne chose. Mais là où il y a le problème, là où le bas blesse, est que eux-mêmes proposent, eux-mêmes pour mettre en pratique, c'est tout un problème. C'est ça ce qui nous inquiète, nous, la population congolaise. On ne sait pas si ces autorités-là, il faut et ils sont aussi d'accord. Car ils proposent et mettre en pratique, ça devient une autre chose. Tellement difficile. Parler, c'est beau. Parler comme eux veulent, comme ils ont fait là, c'est beau. Nous disons encore une fois, merci, c'est beau de parler. Mais mettre en pratique, ça devient aussi une autre chose.
Oui, Siméon souhaite vraiment qu'au-delà de propositions, il faut vraiment qu'on aille en pratique, qu'on voie des centres de formation, qu'on puisse privilégier, qu'on puisse inverser la tendance, comme a dit notre invité tout à l'heure. On va écouter Jules qui est à Bukavu. Bonjour Jules, on vous écoute.
Bonjour Monsieur Pierrot et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Je salue la proposition de Monsieur Vital Mouini, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, mais tout en soulignant que je suis contre cette réforme. Pourquoi, Monsieur Perrault? Nous, le système que nous avons aujourd'hui, nous l'avons hérité aux colons belges. Mais si nous regardons aujourd'hui la Belgique et la RDC, il n'y a pas match. Donc la Belgique est un pays développé, la RDC ne l'est pas. Alors, le système que nous avons hérité ici a marché avec les pays auprès duquel nous l'avons hérité. Mais pourquoi nous n'avons pas eu le temps de nous développer avec le système? Bon, est-ce que ce système ici est-il déjà périmé? C'est la question que nous devons aussi nous poser. Et si le système est périmé, qui a fait à ce que le système puisse être...
Et ça, c'est une question très intéressante, Jules. Hein, après l'intervention de Marie-Paul, je vais demander à notre invité de réagir à ça. Il dit, mais c'est le système que les Belges nous ont donné. Pourquoi se sont-ils développés et nous, on est restés à la traîne alors qu'il y a l'enseignement? Mais il faut qu'on se le dise, juste aujourd'hui, quand on forme l'enseignement, la plupart de matières et des décisions viennent aussi de partenaires. Quand on parle de partenaires, on voit aussi la Belgique dedans. Marie-Paul, vous êtes à Kisangani, on vous écoute, Marie-Paul.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi. La réforme du système éducatif vend son pesant d'or pour améliorer la formation des cadres de conception en tenant compte des enjeux de l'ère et de l'employabilité disponible. De ce point de vue, la réforme au sein du système éducatif est inévitable. Pour le système éducatif congolais, les questions qu'il faut poser avant de booster ou de penser à la réforme sont celles de savoir qu'est-ce qu'il faut réformer dans le système éducatif de la RDC et pour quelle fin. L'ancien système, c'est-à-dire le système traditionnel, a péché par quoi? Voilà, ce sont les réponses à toutes ces questions qui peuvent nous donner l'idée de ce qu'on peut faire dans cette réforme qu'on envisage. Et en considérant bien évidemment toutes ces préoccupations, je trouve à mon avis que la proposition de la réforme des systèmes éducatifs proposée par l'honorable Vital constitue un projet mort-né. Et elle n'est pas de nature à pouvoir résoudre à la racine les problèmes, bien évidemment, du système éducatif congolais. Parce que nous le savons bien que la RDC est un pays en développement et que ce pays a beaucoup plus besoin que tous les domaines de la vie soit en fonction, soit en action. Et c'est alors que ce pays peut vraiment booster son développement.
Voilà. Merci beaucoup, Marie-Paul. Alors, honorable Vital, vous avez suivi nos trois compatriotes. Ce qui est intéressant, avec notre ami de Goma, il dit il faut privilégier, mais lui, il s'inquiète, parce qu'on peut dire, mais il faut qu'on passe à l'action. Vous l'avez souhaité d'ailleurs. Jules, lui, il voudra savoir, mais nous, on a hérité ces systèmes de Belges. Pourquoi se sont-ils développés avec ces systèmes éducatifs qu'ils nous ont imposés, on peut bien dire ainsi, ou qu'ils ont choisi pour nous? Et pourquoi nous, on est restés à la traîne? Et Marie-Paul s'inquiète parce que, pour lui, il estime que, bon, on peut bien vouloir réformer, mais dans les fonds, on risque de continuer à faire les mêmes choses, parce que la volonté politique, c'est quelque chose de très intéressant. Voilà votre réaction.
D'accord. Il a raison. Au regard de notre vécu avec tout cela, cela qui nous a dirigés dans l'État, il y a franchement un fossé, un grand fossé entre les paroles et les actes que les gens posent. Ça, je suis de cet avis. Mais nous ne devons pas être figés là-bas. Nous devons être dynamiques. Nous devons changer. Les propositions, je dois lui dire d'abord que moi, en tant que député, c'est un plaidoyer. Je ne suis pas l'exécutif, oui. Je suis pas au gouvernement. On ne peut que juste proposer. Et on propose à cul levé, n'est-ce pas? Mais toutefois, je dois aussi suivre et voir comment cela peut se faire. Je voulais de féliciter le gouvernement d'avoir maintenu ne fût-ce que
le ministère de la formation professionnelle, oui.
Et puis, il y a l'enseignement technique, même au niveau de l'EPST aussi, il y a l'enseignement technique, voilà. N'est-ce pas ça? Alors, je vais dire autre chose. Que cet homme-là, heureusement, vous avez affaire à quelqu'un. J'ai été dans le monde. Tous ces livres que j'ai écrits, c'est après avoir connu les systèmes belges. J'ai été là. J'ai été au moins dans 19 écoles de métiers et dans le ministère de formation professionnelle en Belgique. Les Belges nous ont beaucoup cachés. Ce n'est pas ça, ça ne fonctionne pas de cette manière-là.
Chez eux,
non,
c'est pas ce programme qu'ils nous avons.
C'est ailleurs, c'est autre chose. Je demande à mon interlocuteur, dans mon co-débatteur, de se rendre en Belgique. Ils vont trouver ces autres choses. Ils valorisent tellement la formation professionnelle. Aujourd'hui, ils deviennent même élèves. J'ai été même dans la partie allemande de la Belgique, à Eupen. C'est terrible, c'est le système allemand qui fonctionne là-bas. Et c'est pourquoi aujourd'hui la Belgique est devenue aussi une référence. Une référence même en matière de l'enseignement technique. C'est pourquoi ils ont créé Enabel qui est ici. Comme GTZ en Allemagne.
Exact.
Donc ce qu'ils font chez eux, ce n'est pas ce qu'ils ont appris ici. Ils ont réformé depuis. C'est nous plutôt qui sommes en retard. Alors, si nous devons nous ressourcer à la Belgique, allez, ne fût-ce qu'à côté ici, il y a Enabel. Enabel, c'est une agence belge qui s'occupe aussi de l'enseignement technique et professionnel. Je vous dis, ils ont tout réformé il y a longtemps. Nous sommes arrêtés peut-être il y a 50 ans. Alors, je voudrais leur dire, je vais dire à mes amis que c'est un système désuet. On forme en fonction des besoins des entreprises, des besoins de la population, des besoins du marché. Quand on est déconnecté là-bas, on ne fait que former des chômeurs. Et là, nous répondons à ce que nous appelons, les jargons, on appelle ça la demande sociale. Nous répondons à la demande sociale pour former les gens. Demande sociale, donc il y a un engouement dans tel métier, dans telle filière, les gens y vont. Mais ce n'est pas la demande réelle. La demande réelle tient compte des besoins du marché.
locale et extérieure.
Et d'ailleurs, pour ne pas vous interrompre,
oui,
avec la multiplicité des écoles, des universités, on a vu cet engouement, on a commencé avec la médecine, tout le monde s'est déversé dans l'informatique, après on se déverse maintenant dans l'administration des affaires, après on se déverse dans l'économie, maths informatique, c'est un mouvement qui s'est fait comme ça. Et parce qu'il y a ces déficits d'orientation, mais il y a aussi la responsabilité des parents, ou soit les personnes qui n'ont pas de perspectives. Mais il faudrait que les politiques donnent aussi des perspectives qui permettent à ce que les gens disent « oui, je peux le faire, demain je peux trouver de l'emploi » ou « je peux créer de l'emploi moi-même » et que aussi le gouvernement met en place un cadre qui nous permet de créer des micro-entreprises sans avoir beaucoup de pression fiscale, sans beaucoup de démarches trop compliquées pour avoir une autorisation.
Nous sommes sur la bonne voie. Les Congolais et Congolaises ont commencé à comprendre. Mm-hmm. C'est pourquoi toute opportunité d'enseignement technique qui peut aider à créer son emploi. Beaucoup de parents auraient déjà leurs enfants. C'est pourquoi quand on fait de l'informatique, télécommunication, les gens y vont, n'est-ce pas? Ils y vont parce qu'ils trouvent de l'avenir. Alors, mais nous avons beaucoup de filières pour lesquelles l'État paye autant d'argent, mais qui sans déboucher, je voudrais dire. Mais je vais quand même répondre à quelqu'un qui a dit que pour lui, il est contre la réforme et l'enseignement général n'a péché. L'enseignement général a péché. Nous avons 80% des chômeurs, licenciés, gradués. Allez-y avec une seule offre. Pour un seul poste, vous aurez combien déjà? Combien déjà? Ce sont des milliers.
Oui.
Demandez aux gens, d'un moment à l'autre, on va recruter les inspecteurs, n'est-ce pas? De travail. Monsieur, les candidats, ils sont à combien? Les candidats sont à combien quand on veut recruter des nouveaux magistrats? C'est terrible. L'on a péché parce que nous avons créé plutôt, nous avons fabriqué des sommaires.
Voilà, et qui n'ont pas eux-mêmes les idées.
Oui, ils n'ont pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas appris de l'entrepreneuriat. Et le gouvernement a compris. C'est pourquoi il y a déjà un ministère d'entrepreneuriat.
Oui.
On doit améliorer le climat d'affaires parce qu'ils ont compris que nous devons créer. Si tel n'est pas le cas, nous n'irons pas loin.
Très bien. Alors, permettez que nous puissions écouter les derniers auditeurs revenir à vous. Rapidement, Sylvain est à Kisangani, Amos est à Bukavu et Kalonji est en Bujimai. Sylvain, merci d'être avec nous de Kisangani. Bonjour, on vous écoute.
Dunia Kassindi, depuis Sitkivu, 0957-51-967. Concernant la proposition vraie et idéale du vice-président de l'Assemblée nationale, la RDC doit nécessairement privilégier l'enseignement technique, car dans notre pays, il y a plusieurs gens qui n'ont pas fait la section dite technique. Ils ont fait que des sections hors technique, alors que c'est à partir de la technique que la RDC doit se développer. Si la Chine ou les grandes puissances sont développées, c'est grâce à la technique. Mais maintenant, pourquoi la RDC ne peut pas être l'une des plus grandes puissances du monde? Pour cela, il doit se focaliser en corps et âme dans l'enseignement technique pour le développement de notre beau pays.
Merci beaucoup, Dunia. Ce n'était pas Sylvain, c'était plutôt Dunia qui parle du développement, la technique et le développement. D'ailleurs, dans le livre que vous avez écrit, honorable, vous êtes revenu là-dessus. Vous avez fait cette corrélation entre les écoles techniques et le développement. Mais aussi, j'ai parlé tout à l'heure des créations des richesses. On va revenir là-dessus pour que vous puissiez peut-être démontrer avant la fin de l'émission comment il y a cette corrélation entre les écoles techniques et le développement. On va écouter Amos qui est à Bukavu. Bonjour Amos, c'est votre point de vue.
Je tiens à saluer tous les auditrices et auditeurs de la radio Okapi. Je vous salue Pierrot et la Meji, mais aussi les invités présentement au studio. La proposition de l'honorable Vital Mouhini pour ce qui est de la réforme et amélioration du système éducatif congolais vaut son pesant d'or. On ne peut que soutenir quand il va dire que actuellement il fallait qu'on puisse privilégier plus l'enseignement technique et professionnel en lieu et place de l'enseignement général traditionnel, étant donné que l'enseignement technique et professionnel a beaucoup d'opportunités ces derniers temps. C'est une très bonne loi. Et voilà des lois que les Congolais attendaient de nos élus. Malheureusement, quand ils arrivent à l'Assemblée nationale, ils entrent dans autre chose et laisse ce qui intéresse la population congolaise. Souvent, ils se font manipuler par les politiques, oubliant qu'ils sont des élus de la population et qu'ils ont été envoyés pour aller voter des lois qui contribuent ou qui changent les conditions de vie de la population congolaise. Des lois qui favorisent la création des emplois en faveur de la jeunesse. Malheureusement. Comme on le dit, il n'est jamais tard pour rien faire. Nos députés sont au soir de leur mandat. Il ne leur reste que 5 mois avant que leur mandat prenne fin. Beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que Mouhini n'a pas proposé cette loi juste pour des intérêts électoralistes, comme on est à la fin de leur mandat et qu'ils voudraient avoir un autre mandat auprès de la jeunesse?
Voilà, merci beaucoup. Amos demande si bon, c'est pas une loi, c'est une proposition de réflexion. Pour Amos, il dit mais est-ce que ce n'est pas pour embarquer la jeunesse et pouvoir accorder un deuxième mandat à l'honorable Mouhini? Alors on va écouter les derniers, c'est Kalonji qui est en mouvement et on revient à vous pour essayer encore de d'argumenter, terminer cet échange. Kalo Kalonji, bonjour, merci, vous êtes en mouvement et on vous écoute.
Oui, monsieur Pierrot, bonjour et bonjour aux auditeurs de la radio Okapi, c'est Kalo Amboujmaï. Je pense que la proposition ou l'idée donnée par le deuxième vice-président, moi je trouve que c'est une idée fondée. Pourquoi nous le disons? Parce que l'éducation a joué un grand rôle dans le développement de certains pays. Et c'est l'un des facteurs explicatifs importants des écarts de niveau de vie entre pays. En général, et les individus en particulier. Si on peut considérer, par exemple, certains pays contenant des tailles considérables comme les États-Unis, la place de première puissance économique mondiale est liée aussi à la mise sur pied d'un système éducatif primaire généralisé dès le 19e siècle, puis secondaire et tertiaire dans la première partie du 20e siècle, si je ne me trompe pas. Mais la démocratisation précoce de l'enseignement aux États-Unis était une des raisons de leur développement rapide. Comme vous allez vous remarquer aussi, c'est là aussi dans les cas de pays européens et les régions d'outre-mer. Ici, je parle de pays scandinaves, pays germaniques, pays anglo-saxons ou latins. Alors, quand vous prenez les données, par exemple, des États-Unis, vous allez vous rendre compte que même le financement même de l'éducation, vous allez vous rendre compte qu'on finance beaucoup dans ce système. Pourquoi? Parce que actuellement, ici, nous avons un problème du capital humain. C'est ce qui fait que vous pouvez amener votre apport, vous pouvez amener vos actions là, vous amenez autant de milliards, mais moi je vous amène le capital humain. Moi-même, la personne, je fais partie du capital. Alors, ce qu'il a émis de voir des privilégiés, par exemple, l'enseignement professionnel, en tout cas, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que je me suis toujours demandé quel est le besoin réel de la RDC vis-à-vis de l'éducation. C'est que quand on enseigne en RDC, quel est le besoin? Est-ce que réellement les filières que nous considérons ici chez nous
répondent réellement aux besoins de la RDC? L'invité a parlé de la remise en question, de l'évaluation. Alors on revient à vous, l'honorable Vital, ouais. Parce qu'on doit terminer cet échange. On a beaucoup parlé. D'accord. Et d'ailleurs, je m'en vais bien le dire aussi que c'est une des émissions où vous avez plus de 90% des auditeurs qui soutiennent cette idée. Ça montre déjà que les gens veulent que ça change. Ouais. Et il faut maintenant qu'il y ait des gens qui prennent la décision de faire changer. Voilà.
D'accord.
La population veut que ça change, mais ouais. Quelque part, il y a des gens qui doivent prendre la décision de faire changer.
D'accord. D'abord, vous avez demandé d'avoir la formation professionnelle au regard par rapport à la pauvreté, n'est-ce pas?
Dans la lutte contre la pauvreté.
Et je crois que c'est le secteur approprié, franchement, pour moi, pour lutter contre la pauvreté. Je crois, vous lirez dans mon livre et vous trouverez ce que j'ai pu relever là-bas. Je ne le fais pas seulement de manière théorique. Ce livre est intitulé Guide du praticien de la formation professionnelle. Comment la rendre efficace par rapport aux besoins de la population et du marché. Il y a des expériences. Vous savez que je n'ai pas écrit ce livre. Je l'ai coécrit avec une Allemande qui est témoin des enquêtes bien faites.
Et alors, pour dire à notre invité Amos qui est à Bukavu, que non, va sur place à Bukavu, informe-toi. Ce n'est pas pour des besoins
électoraux. Oui, qu'il aille dans un centre qu'on appelle Capacité d'avenir industriel.
il va trouver là, j'ai trouvé un centre avec 3 filières de formation, filières traditionnelles. J'ai sorti de là avec 23 filières de formation. C'est là que nous avons réussi récemment, le chef de l'État suisse est venu visiter. Les ministres défilent là-bas parce qu'ils ont à voir là exactement. Je voudrais dire, c'est la formation professionnelle favorise l'insertion professionnelle. Oui, ça c'est que ça favorise. Mm-hmm. Pas seulement pour demander les gens l'honneur de demander, non. Quand on n'a pas de moyens de développer l'auto-emploi, par la création des micro-ateliers qui deviennent des micro-entreprises, qui deviennent
des moyennes entreprises,
et des grandes entreprises à la fin. Aussi, quelqu'un a dit, alors les députés sont manipulés, apparemment quand on n'est pas député, on nous charge de n'importe quoi. Qui manipule qui? Nous sommes une maison où les gens s'expriment, où les gens proposent, et au tas des lois. Je crois que notre pays ne se meurt pas au niveau des lois, parce qu'il y a d'autres pays qui viennent se ressourcer de nos beaux textes. Mmh. Je crois que c'est plutôt la mise en œuvre de ce que nous faisons. C'est pourquoi même au sein de l'Assemblée nationale, nous avons, avec notre législative, on a essayé une 11e commission, qui est commission de suivi de l'application des lois. Nous sommes députés, nous n'avons qu'un mandat de 5 ans, mais l'Assemblée nationale sera toujours là.
Et d'ailleurs, il faudra dire que la réforme, c'est pas une question aussi liée au mandat politique, parce que c'est une réforme qui va rester pour des générations.
Et puis le changement, c'est un processus, ce n'est pas automatique. On ne s'attaque pas à l'enseignement général toute la ligne. Il y a des éléments. Après l'évaluation, on verra, on va continuer avec ceci et ça, on laisse. Mais je voudrais seulement dire, je ne fais pas des propositions pour des faits électoralistes. D'ailleurs, quand on parlerait de ce domaine, même mes propres électeurs, vous pouvez facilement m'élire. Parce que depuis que je suis député, mais j'ai déjà initié 7 centres de formation professionnelle qui fonctionnent aujourd'hui. J'en ai ici à Kinshasa, j'en ai au Nord Kivu, j'en ai au Sud Kivu, et dans ma circonscription, il y a 3 qui fonctionnent, avec pas moins de 1000 candidats. C'est-à-dire, je ne suis pas un théoricien. Non, j'ai besoin de... En pratique, c'est pourquoi alimenter un centre que j'ai initié là-bas. Avec les moyens de bord, j'ai entamé un centre. On a donné ça 8 titres la fois passée. Les jeunes de cette ville qui s'adonneraient au banditisme et qui sont encadrés.
Ça a été même diffusé sur Radio Capi.
Ça a été diffusé, je crois que quelqu'un de Radio Capi était là. C'est pour dire, je ne le fais pas pour des faits électoralistes. Dis-moi des livres, je publie ces expériences pour que ça profite à d'autres. C'est pourquoi l'UNESCO s'en est saisi.
Exact. Alors, parce qu'on va terminer, on a que 45 secondes pour terminer. D'accord. Est-ce que vous êtes suffisamment écouté?
Oui. Avec ça?
Oui.
Que les m'a écouté. Dans la commission socio-culturelle de notre parlement, tout le monde sait que pour juguler, réduire ce taux de chômage, faut passer par la formation professionnelle. Et les jeunes sont les plus, ce sont eux qui écoutent la plupart.
Est-ce qu'au niveau du ministère de l'enseignement, l'enseignement secondaire, l'enseignement général, on vous écoute aussi ou on vous trouve comme quelqu'un qui vient marcher sur les plates-bandes?
Non, de toutes les façons, je suis écouté parce qu'au moins les ministères de l'enseignement professionnel nous accompagnent dans tout ce que nous faisons. Ils sont allés lancer les examens d'état, le premier test national de formation professionnelle dans les centres que nous avons initiés avec mon église.
Non, je parle plutôt de l'enseignement général. Est-ce qu'ils trouvent que vous marchez sur les plates-bandes ou bien ils disent ça peut être, il faut qu'on soutienne ça?
Non, ils soutiennent ça parce que c'est aussi focalisé sur l'enseignement technique. Parce que l'enseignement technique aussi se trouve aussi au niveau de l'EPST et l'enseignement de la formation professionnelle c'est dans un autre ministère. De toutes les façons, par rapport au gouvernement que nous avons, je crois que les espoirs nous sont permis et surtout que les Congolais, la plupart des jeunes, voudraient, même vous avez fait la reconversion, même d'autres qui ont fait d'autres domaines d'ordre général, peuvent aussi se reconvertir, n'est-ce pas, comme vous l'avez fait, vous êtes journaliste pour
t'arrêter. Alors, on termine cette émission, voudrais peut-être au mois de septembre, ça risque d'être la période des campagnes, qu'on vous reçoive. Cette fois-ci, on sera à la veille de la rentrée scolaire pour que nous puissions faire une émission d'orientation pour dire aux enfants pourquoi choisir la formation technique et professionnelle.
Oui, attendez aussi. J'ai un livre en chantier où je parle de la problématique de la formation professionnelle. Je crois on est disposé pour ça.
Merci beaucoup, honorable Vital Benoissis, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Mimi Kintu qui a mis en onde ce magazine, Pierrot et la Meiji. On se retrouve demain pour un autre numéro de Parole aux auditeurs.